Pierre prêche, il y a 3000 personnes qui se convertissent. 3000 personnes qui disent « Moi, je veux donner mon cœur à Jésus. Moi, je veux suivre cet homme Jésus dont vous parlez. » Et donc, l'Église existe. Ça y est, il y a 3000 et quelques personnes qui font l'Église. Et on voit dans la fin d'acte 2, la première description de cette Église. Et donc, quelque part, on revient un peu aux bases, au fondement de qu'est-ce que c'est l'Église. Et on a vu que c'était une Église qui était ensemble. On a parlé des groupes maison. On a vu que c'était une Église qui priait avec persévérance. Donc, on a parlé la semaine dernière de la prière. Et on va voir aujourd'hui que c'est une Église qui partage tout. Et demain, on verra aussi la partie plus évangélisation, on va dire, plus partage de la foi. Donc aujourd'hui et la semaine prochaine, on va parler de la mission, on va parler de pourquoi est-ce qu'on est là, en deux volets. Quoi. Mais avant, j'aimerais vous parler de quelqu'un dans ma classe, au lycée, qui s'appelait Mounir. Et Mounir, il était vraiment fort au foot. Il était vraiment fort. Et au point où, en gros, quand on faisait les équipes et qu'il était dans ton équipe, tu avais presque gagné déjà. J'exagère peut-être un peu, mais parce que moi, j'étais quand même fort aussi. Non. On a tous des gens à l'école ou des personnes avec qui, qu'on connaît qui sont super forts. Et puis, donc en particulier dans le sport, si on est avec eux, c'est sûr, on a un avantage. Quoi. Peut-être c'était vous, le meilleur de la classe. Et il y a toujours ce moment quand on fait les équipes là où on a toujours peur d'être le dernier à être choisi. On a toujours peur d'être « Ah, c'est moi qui l'ai choisi en dernier. » On est content parce que c'est moi qui l'ai choisi en premier. Et « Ah, je suis dans son équipe à lui. » Je pensais à ça aujourd'hui en pensant en priant, en disant à Dieu « Il faut que tu m'aides. il faut que tu m'aides pour ce matin, il faut que tu m'aides dans ma vie. » Et je me suis dit en fait, on participe à l'œuvre de Dieu. Quelque part, on a invité à être dans son équipe. Et depuis toujours, moi, c'est un truc qui me surprend, qui me dit, mais je suis appelé à participer à l'œuvre de Dieu. Et plus je réfléchis, plus je regarde la grandeur de Dieu, que je suis émerveillé par Dieu, par qui il est, par le fait qu'il a parlé, et puis les étoiles sont apparues. Ça paraît absurde, mais c'est ce qui s'est passé. Ce Dieu-là, ce Dieu qui est capable d'un tel amour qu'il est venu mourir pour moi, pour vous, il me dit, participe avec moi à ce que je fais, viens dans mon équipe. C'est bien mieux quand il réfléchit d'être dans l'équipe de Mounir pour jouer au foot. Déjà parce que là, on ne parle pas juste de faire une partie de foot, mais parce qu'il est tellement mieux dans son domaine que ce Mounir au foot, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans cet univers qu'il ne peut pas faire, qu'il ne peut pas connaître? Mais c'est encore plus que ça, en fait. Plus j'y réfléchis, plus... Parce que non seulement je suis dans son équipe, mais lui qui sait toutes choses, qui aurait pu choisir tout un tas d'infinités de plans pour l'univers que je ne peux pas comprendre ou imaginer, il a choisi un projet en particulier dans lequel... je suis pas seulement partie de son plan, mais nécessaire à son plan. Ça veut dire que, quelque part, si je fais pas ce qu'il faut faire, ça se fait pas. Voilà. Si, je sais pas, s'il y a quelqu'un qui rentre ce matin et qui est malheureux et que je vais pas lui parler, eh ben, il va repartir et il y aura personne qui lui aura parlé. Voilà. Donc peut-être que Dieu peut faire autre chose à côté, mais il me dit, vas-y, et si ça se fait pas, eh ben, ça se fait pas. Je suis nécessaire à ce qu'il me demande de faire. Je fais pas seulement partie de son plan, mais d'une certaine manière, j'en suis utile. Ça n'enlève pas la souveraineté de Dieu, parce qu'il pourrait très bien se passer de moi, on est d'accord. Mais c'est son choix. Il choisit ça. Il a choisi de créer un univers où on a un impact sur les choses. On a parlé de la prière la semaine dernière. Si ça, c'est pas un exemple parfait, on prie. Et Dieu nous dit, prie pour que ça se passe. Est-ce que Dieu a choisi que ça se passe, mais il a aussi choisi que ça se passe parce qu'on a prié. Et donc, je suis nécessaire dans son plan. Ça va encore plus loin que ça même. Ça va encore plus loin. Parce que dans son plan, dans ce projet qu'il a pour nous, il s'attend à ce que j'apporte quelque chose, comme on a dit, qui va faire la différence. Et Et ça, c'est pas souvent, c'est pas des choses qui nous tombent du ciel tout cuit. Je veux dire, j'ai regardé Audrey, ma femme, préparer la série dont Paul a parlé pour les enfants sur le psaume 23. Ça demandait beaucoup de travail. Elle a inventé une histoire pour raconter le psaume aux enfants avec une fille qui s'appelle Pilgrim et qui fait ça, qui va sur les montagnes et tout. Et puis Berger, qui est la figure de Dieu, qui l'aide, qui le suit. Elle y a passé des heures. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je fais partie de son plan, ce que je fais, c'est nécessaire, mais en plus, quelque part, il me donne la force, on est d'accord pour faire ce que je fais, mais faut que j'y aille, quoi. C'est mon effort. C'est mon effort qui va faire la différence, du coup. Parce qu'il l'a choisi. Dieu est Dieu. Mais tout de même. On va parler de l'aide aux plus démunis, l'aide aux plus faibles ce matin. Ça va pas être une prédication sur donner votre argent. Même si ça en fait partie, on est d'accord. Ça va pas non plus dire que je veux sous-entendre que vous faites rien, que voilà, c'est nul ici. Je vais nommer personne, mais je connais beaucoup d'entre vous qui font plein de choses, d'initiatives individuelles ou participer à des associations. Je sais qu'il y en a pas mal dans l'église qui sont avec Hope and Joy, des choses comme ça. Mais on retourne aux bases là en ce moment. Et ça fait partie de la base de l'Église, de qu'est-ce que c'est l'Église. Le but, c'est de se rappeler du fondement de notre foi, le fondement de cette Église, pour être en action ensemble. Ensemble. Vous rappelez la devise qu'on a en Christ, en mission, ensemble. Ce n'est pas trois entités séparées, c'est une seule phrase. Parce que je suis en Christ, parce que je suis en mission et parce que je suis en mission, je suis avec vous. C'est un seul et même trait. Et donc pourquoi je vous parle de Mounir et tout le reste? Parce que ça rentre là-dedans. Parce que j'aimerais qu'on ait cette perspective un peu plus générale de pourquoi on est là. On est en mission. On est en mission parce que Dieu, dans sa souveraineté, a choisi de me faire participer à son plan par mon effort. Vous me suivez dans ma logique? Ma mission, on va voir cette semaine, la semaine prochaine, dans son royaume, dans ce qu'il a à faire pour moi, elle implique mon effort. Elle implique que je me gratte la tête. Elle implique que je sois peut-être fatigué à certains moments parce que j'ai donné de moi. Elle implique que je prenne des risques. Elle implique que je suis moins confortable. Mais quand on regarde vraiment au-delà de juste l'inconfort que ça peut générer, c'est merveilleux, non? C'est bien mieux que d'être avec Mounir à jouer au foot. C'est magnifique. Moi, j'arrive pas à on dit wrap my head around it en anglais. J'arrive pas à le saisir. J'arrive pas à saisir à quel point c'est fort en fait. À chaque fois, ça me bon, je m'arrête parce que je trouve ça trop trop merveilleux que je pourrais parler que de ça. Mais voilà, ça c'est ça l'objectif ce matin. Qu'on parle dans ce schéma-là, on va parler de qu'est-ce que ça veut dire de On va lire, ils y croyaient, ils étaient ensemble, ils avaient tout en commun, ils partageaient tout. Mettons ça dans un contexte plus global. Donc, acte 2, 41. J'ai oublié de faire un diapo, désolé. Vous allez devoir suivre en écoutant. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc vous avez vu les deux versets sur lesquels on va s'attarder, hein, 44-45. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Est-ce que vous vous rappelez de Patrick Ollier. Eh ben oui. Non. Pour ceux qui sont nouveaux dans cette église depuis septembre, c'était une personne qui était avec nous, avec Brigitte, sa femme, depuis quelques années maintenant. Il était même ancien de l'église. Et bon, ils sont à Nîmes, donc ils ont décidé de changer d'église. Là, ça faisait beaucoup de venir. Et donc, voilà, ils ne font plus partie de cette église. Mais est-ce que vous vous souvenez de son verset préféré ? Celui qui sortait presque une fois sur deux quand il parlait, non ? Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On est d'accord qu'il l'utilisait beaucoup, ce verset. C'était vraiment son cœur. C'était vraiment son cœur pour nous, pour cette église. Que en s'aimant les uns les autres, et ben, tous voient que y a quelque chose ici. Parce qu'ils voient que, il y a quelqu'un qui me disait ce matin, c'est marrant, il y a plein d'origines différentes dans cette église, et puis on voit qu'il y a plein d'âges différents, et que plein de contextes différents, et pourtant on est là, et on s'aime les uns les autres. Et c'est comme ça qu'on reconnaîtra qu'on est les disciples de Jésus. Et donc, voilà, pour moi, là, quand on parle de, ils partageaient tout ce qu'ils avaient, ça me parle vraiment de l'amour pour l'église. L'amour pour l'église, pas en tant que juste bâtiment ou même juste entité, mais de chaque membre de cette église. On a tendance un peu à mettre l'amour sur un piédestal. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau l'amour, c'est bien l'amour. Ah oui, Dieu est amour. Ah, je t'aime mon frère. Et après, on ne fait pas grand-chose. Pourtant, c'est très concret. C'est très très concret. D'ailleurs, dans Jacques, il nous dit dans Jacques 2, « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Partez en paix et mettez-vous au chaud et rassasiez-vous sans pouvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il » Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Il y a les mots, et après il y a les actes. Et les mots sont morts s'ils ne sont pas suivis d'actes. Et donc, quand on parle de l'amour et aimez-vous les uns les autres, c'est à ça qu'on verra que vous êtes les disciples de Jésus. Bah oui, ok. Comment on le voit ? Concrètement, parlons-en. À quoi ça ressemble, ça ? Parce que sinon, c'est juste, ah, l'amour, oh là là. Et puis, il n'y a rien derrière, c'est du vent. Donc l'amour, comme on a vu dans là, ce que je viens de dire dans Actes, c'est et on le voit dans plein dans d'autres endroits, dans 1 Jean par exemple, c'est le signe que celui qui est, de celui qui est sauvé. L'amour dans le cœur du disciple, c'est le signe qu'il est sauvé. Et d'ailleurs, l'absence de ça, c'est une manière de voir si quelqu'un est sauvé ou pas. Ou s'il dit juste des mots sans comprendre ce qu'il dit. Jésus, il nous dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes là pour quelque chose. À commencer entre vous, là. Aimez-vous les uns les autres, c'est un commandement nouveau. Ça va avoir un effet, et on le voit, là. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont 30 000, ils sont saisis d'un coup par la parole de Dieu, par l'esprit qui vient en eux, qu'est-ce qui se passe ? Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous. C'est pas radical, ça ? C'est pas radical ? Et surtout très concret. Ça change la vie de celui qui avait rien, ça change aussi la vie de celui qui avait beaucoup. C'est hyper concret. Est-ce que la Bible dit que c'est ça qu'il faut faire et que ça ? Non. Mais en tout cas, c'est concret. Donc à quoi ça ressemble, l'amour les uns pour les autres ? Ça ressemble à quelque chose d'extrêmement concret, qui change la vie concrète des gens. L'amour, c'est un don de soi, en fait. Là, on voit qu'ils donnent, qu'ils vendent tout pour donner, déjà. Si je vendais tout ce que j'avais pour le donner, ce serait un don de moi, je suis désolé. on a beau vouloir dire, oui, non, là, c'est pas l'argent, je suis détaché de l'argent et tout. En vrai, ça me coûterait très très cher. Bon, j'ai pas grand-chose, j'ai la chance de ça, mais... Cette radicalité, elle implique vraiment un don de soi. Elle implique vraiment un engagement envers l'autre d'un niveau extrêmement élevé. Et donc, moi, ce matin, je n'ai pas envie de vous donner l'impression que je ne vais pas parler de l'argent. C'est pas un sermon sur l'argent, mais ça ne peut pas ne pas avoir ça comme implication. J'ai pas envie qu'on sorte de là sans se poser la question de qu'est-ce que je fais avec mon argent. Est-ce que je l'utilise pour aimer les autres? Il faut qu'on se pose la question à un moment donné. Il faut qu'on se pose la question. On parle notamment de la difficulté financière de l'Église. Ce n'est pas forcément par un manque de générosité, comme l'a dit Stuart la semaine dernière. C'est, je pense, principalement parce que la démographie de l'Église a changé. Mais il faut qu'on se pose la question. Comment j'utilise cet argent? Est-ce que j'utilise d'une manière qui rend gloire à Dieu, qui témoigne de mon amour envers les autres? Mais je pense que c'est aussi plus que l'argent. Parce que c'est... Je vais développer ça un peu plus tard, mais je pense que c'est plus un don de soi qu'un don seulement d'argent. Ça implique l'argent, mais du coup, ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Je pense que ce qu'on peut voir là aussi, je vais assez rapidement, hein, parce qu'on a beaucoup de choses à voir, c'est un amour en toute simplicité, en fait. On a tendance à se mettre beaucoup de... oui, mais il faut le faire avec sagesse. Oui, il faut faire avec sagesse, je suis d'accord. Il faut faire attention que ceci, cela. Et oui, mais peut-être que ça, ça, ça. Mais à un moment donné, c'est aussi simple. Est-ce qu'il y a des personnes dans cette église qui ont besoin de quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un, là, que je sais, il a besoin de quelque chose, que j'ai? C'est simple, en fait. Ça commence avec quelque chose de très simple. Et l'amour qu'on a les uns pour les autres aussi est très simple. Oui, il faut le faire avec sagesse. Oui, je ne vous dis pas de vous mettre en difficulté extrême pour aider votre prochain. Oui, mais c'est aussi très très simple. C'est aussi très très simple. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que je l'ai? Jésus, il dit, si vous avez, c'est quoi, deux tuniques, donnez-en une. Ça veut dire que quand il y en a une qui est sale, tu fais comment? Mais en vrai, c'est simple. T'en as pas, j'en ai deux, bah, ok, tiens. Je veux pas vous mettre un poids, mais je veux qu'on s'enlève les fausses excuses. J'ai très souvent des fausses excuses en disant oui, mais ceci, mais cela. Non, c'est simple en fait. C'est simple. C'est pas dénué de réflexion et de calcul, mais c'est simple. Est-ce qu'il y a des familles, des étudiants, des retraités, des malades, des personnes qui sont très seules, qui ont besoin de moi? Est-ce que je peux donner ce dont ils ont besoin aussi? Faut pas, voilà. Jésus, il dit, si vous avez deux tuniques, si vous en avez qu'une, vous ne pouvez pas la donner. Et si j'ai du surplus et qu'il y a quelqu'un qui n'en a pas assez, est-ce qu'il y en a autour de moi? C'est la première question simple à se poser. Et enfin, sur ce point de aimer les membres de cette église et s'aimer les uns les autres d'une manière très concrète, j'aimerais insister sur l'importance de la fraternité, de cette dimension de l'un l'autre, de l'importance de se connaître vraiment. Parce que c'est seulement si je te connais vraiment que je vais savoir vraiment ton besoin, déjà. Et puis parce que là, c'est écrit, verset 44, tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Ils étaient ensemble. On ne l'a pas sorti de nulle part. Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble, on a insisté sur l'église, on a insisté sur le groupe maison. Il y a cette importance d'être ensemble. Ça y est, c'est revenu. Merci. Désolé. Et donc, on a besoin de cette dimension-là. Encore, s'il faut que ça soit concret, s'il faut que ça dépasse les mots, ça demande un engagement à être l'un avec l'autre. À se connaître. Ça veut aussi dire que je ne peux pas aimer de la même manière tout le monde dans cette pièce, aussi. Mais on a un devoir, une responsabilité l'un envers l'autre, d'être ensemble, de veiller l'un sur l'autre. Donc, aimer son prochain, c'est notre mission. aimer son prochain. Dans Matthieu 25, Jésus il parle de la manière dont il va juger le monde à la fin du chapitre. C'est pas longtemps avant sa crucifixion. Et il parle à ses disciples et il leur parle de comment il va juger le monde. Il parle qu'il va mettre d'un côté à sa gauche les chèvres et de l'autre côté les brebis. Il va faire une séparation, un jugement. Et il parle de ceux qui, quand il avait faim, lui ont donné à manger, quand il avait soif, lui ont donné à boire, quand il était étranger, l'ont accueilli, quand il était malade, l'ont visité, quand il était nu, l'ont habillé, quand il était prisonnier, ils sont venus vers lui. Vous vous rappelez de ce passage? C'est un peu long, donc je ne le lis pas en entier. Après, il dit qu'il y en a qui lui demanderont, mais quand est-ce qu'on a fait ça? Quand est-ce qu'on a fait ça? Et il leur répond, quand vous avez fait ça pour les plus petits de mes frères, vous me l'avez fait à moi. Encore, très concret. Très concret, mais aussi, pour moi, ça me provoque aussi. Ça me provoque à cause du dernier. Le prisonnier? Vraiment? Quand j'étais prisonnier, vous êtes venu vers moi? Le prisonnier, celui qui a peut-être tué quelqu'un. Celui qui a peut-être attaqué ma famille, ou moi. En tout cas, la famille de quelqu'un. Avoir le cœur ouvert à ceux qui ont fait le mal. Aimer le prisonnier. Moi, honnêtement, ça me fait réfléchir. Je lis ça et j'y réfléchis et ok, il y a un mur là, il faut que je dépasse quelque chose. Quelque part, l'œuvre sociale, si on veut lui donner un grand mot, l'œuvre sociale de l'Église, l'œuvre, c'est une œuvre d'amour. Parce qu'elle va au-delà de certaines barrières qu'on peut se donner. C'est plus facile de donner pour un étudiant de l'Église, de se donner plutôt pour un étudiant de l'Église qu'au prisonnier. On peut élargir un prisonnier, c'est toutes ces personnes que, bah, voilà, vers lesquelles on n'irait pas d'office parce que voilà, on les trouve juste. C'est pas envisageable, quoi. C'est plus facile de donner à condition que la personne mérite ce que je donne. Vous voyez ce que je veux dire? Et souvent, quand on donne, même juste à... J'en vois souvent autour de moi, je travaille en plus dans le social, ou même juste dans la rue, quand on donne à un mendiant, y a une forme d'attente de reconnaissance derrière. C'est-à-dire que si je donne juste à quelqu'un qui m'a demandé une pièce et que la personne elle est désagréable, elle est ingrate, mais oh, c'est moi qui t'ai donné 1 euro là. Oh. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment, mais en tout cas, c'est sûr que vous l'avez déjà vu chez quelqu'un. C'est une forme de don égoïste en fait. C'est un don qui attend en retour. C'est un don qui donne pour se sentir bien. Moi, je suis celui qui a donné. Il y en aurait beaucoup des histoires, et puis vous en avez sûrement, hein, de gens qui étaient très contrariés parce que quand ils ont donné quelque chose, eh ben, ça n'a pas été bien reçu. Je pense à une personne qui était très contrariée parce qu'elle voulait donner des je pense que c'était des couvertures à un SDF, mais que le SDF lui dit « mais j'ai pas besoin, j'ai pas froid là en ce moment, j'ai ce qu'il me faut ». Et personne n'était scandalisé, mais tu te rends compte? J'ai acheté une couverture, j'allais lui donner, il la veut pas. Ça l'a blessé. Et je pense que ça l'a blessé parce qu'elle allait donner à cette personne alors que c'était pas pour elle. Et c'était pas pour cette personne. La personne vraiment qui allait en bénéficier, c'était elle-même, je pense, pour elle. Enfin, je dis elle parce que personne, hein. Je sais même plus si c'était un homme ou une femme. Et de même, nous, on peut avoir quelque part une réflexion de ouais, non, de toute façon lui c'est pas quelqu'un de bien, c'est pas quelqu'un qu'on peut faire confiance, de toute façon lui il va se droguer, il va s'alcooliser, ça sert à rien, pourquoi est-ce que je me donnerais à lui? Pourtant Jésus il voit pas la personne comme ça, il voit pas ce prisonnier de la même manière, lui il se voit lui dans ce prisonnier même. Et pour moi, ça parle de racisme, ça parle de sexisme et tous les ismes peut-être qu'on peut trouver. Parce qu'on a souvent aussi plein de préjugés comme ça. Je suis très content que dans cette église, il y a une très grande diversité d'origine. Ça parle aussi de l'église. Ça parle de nos valeurs fondamentales. Et on a un rôle aussi à jouer, un message à faire passer pour ça. En gros, pour moi, ça me fait penser à Corinthiens 13, sur qu'est-ce que c'est l'amour. C'est pas faire pour faire. Paul, il nous dit ici, même je peux donner ma vie en sacrifice. Mais si j'ai pas l'amour, ça sert à rien. Je suis une cymbale qui résonne. Ça sert à rien. J'aurais tout perdu pour rien. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas fait parce que j'aimais l'autre. Je l'ai fait pour moi-même. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai vu quelque chose dans l'autre, ce prisonnier, ce SDF, cette personne que je méprise. Je l'ai fait pour. Je n'ai pas vu cette étincelle que Jésus a vue. Et du coup, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est une invitation à aller au-delà des apparences et à aimer l'autre, car Dieu lui a donné de la valeur. Et ça dit quelque chose de nous. En tout cas, tous ceux d'entre nous qui avons eu un problème avec, a priori, sur cette question du prisonnier. Comment faire pour aller vers le prisonnier, mais en l'aimant vraiment? Pas par juste un sentiment de devoir, mais vraiment par amour. Il y a trois choses qui me viennent. Je les ai aussi lues dans un livre, mais il y a trois choses qui me viennent. C'est pourquoi on fait ça? Et surtout, comment? C'est imiter l'amour de Dieu. Dieu est amour, donc je suis son chemin. Je suis à sa suite. Dieu est amour. C'est pas qu'il aime, il aime, on est d'accord, mais il est l'amour. C'est qui il est. L'amour, c'est Dieu. Oui, on peut le mettre dans les deux sens. Et donc, voilà, je suis. On est en Christ, on est en Dieu, allons-y, on aime alors. Quelque part, c'est notre mission de base. C'est si je crois que j'ai été transformé et que Dieu est en moi, et quelque part, je crois que voilà, je suis appelé à ça. C'est le chemin que je dois prendre. Mais c'est aussi parce que je vois en l'autre quelqu'un pour lequel Christ est mort. Il y a des références bibliques, je n'ai pas le temps de tout vous les donner, mais. C'est je vois en l'autre ce que Dieu a vu en moi. Quand je vois en l'autre quelqu'un pour Christ est mort, je vois en l'autre ce que Dieu voit en moi. Quelqu'un pour qui il fallait mourir. Comme le prisonnier. Le prisonnier avait tout autant besoin du sang du Christ pour être levé des morts, pour être sauvé, pour être avec lui que moi. Et du coup, si Dieu m'a aimé, si Jésus m'a aimé de cet amour-là, qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Mais avant, il faut que je puisse me voir comme un prisonnier. Il faut que je puisse voir que, voilà, Dieu, il me voit de la même manière. Et la troisième chose, c'est voir en l'autre Christ lui-même, comme lui nous l'a dit. Là, dans cette personne, il y a Jésus. Il y a Jésus. Ça me parle qu'il n'y a pas de petite personne, il n'y a pas de petite, il n'y a pas de personne insignifiante. Il n'y a personne qui n'en vaut pas la peine. Chacun des visages que je vois, il en vaut la peine. C'est Paul qui dit, en Christ, il n'y a plus homme ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus considération de personne. La valeur de chacun, voilà. Christ, il est mort pareil pour toi que pour moi, peu importe notre situation. C'est le même sang qui m'a lavé que le sang qui t'a lavé toi. Donc, qui suis-je moi pour faire une considération de personne? Si on retourne dans ce que Jésus nous dit dans Matthieu 25, qui nous parle quand il avait faim, il avait soif, il était étranger, nu, malade, prisonnier, on voit que il nous parle des besoins vitaux de la personne, manger, boire. Il nous parle de besoin de protection, l'étranger, celui qui n'a pas d'attache, celui qui a besoin qu'on soit là pour l'aider, pour le protéger, pour le guider. Il parle du besoin de dignité, celui qui est nu, qui soit habillé, qu'on a besoin de relever en tant qu'être humain en disant non, t'as une valeur, t'as une dignité qui ne peut pas être achetée. Il nous parle du besoin du soutien de celui qui est malade, que son corps est attaqué, son esprit est attaqué, parce que quand on est malade, on n'est pas bien aussi dans la tête. Il y a besoin d'être avec, il y a besoin de visiter. On a besoin d'être soutenu. Et le besoin de miséricorde, j'ai un peu insisté sur celui-là, le prisonnier. Encore, c'est des choses très pratiques. C'est une forme d'accompagnement global, on va dire, entre guillemets. L'amour véritable qui va jusqu'au bout, qui prend tous les besoins de la personne en compte. Et donc, faire cela pour mes frères et sœurs, faire cela pour vous, quand vous en avez besoin, c'est le faire pour Jésus. Qu'est-ce que ça dit, ça, du fondement de l'Église? Qu'est-ce que ça dit du fondement de notre foi, de ce qui est à la base ici, de la source? Une vie centrée sur Dieu est nécessairement une vie centrée sur son prochain. Une vie centrée sur Dieu est nécessairement une vie centrée sur son prochain. Si je veux que ma vie, elle suive Dieu, si je dis, Dieu, tu m'as sauvé, tu es mort à la croix, j'accepte ton sang pour moi. J'accepte que j'étais pécheur et maintenant je suis libéré de ça. J'accepte que tu es maintenant mon roi. Et maintenant je marche à ta suite. Ça implique l'amour pour mon prochain. Parce que l'amour pour mon prochain est ce que Jésus me demande. Il me dit même c'est la preuve de que tu es sauvé. Ça ne peut pas aller l'un sans l'autre. Je ne peux pas être en chemin, je ne suis pas en train de remettre en question votre salut, mais je ne peux pas être en chemin sérieusement à la suite de Dieu sans avoir l'amour pour mon prochain. C'est un non-sens. Les deux vont forcément main dans la main. Ça veut dire que je ne suis pas centré sur moi-même. Si je suis centré sur l'autre, c'est que ce n'est pas sur moi. Si j'ai mon regard fixé sur Dieu et ma vie donnée à l'autre, c'est qu'elle n'est pas donnée pour moi-même. Je ne peux pas faire les deux. Je ne peux pas avoir deux dieux, comme dit Jésus. C'est la parabole du bon samaritain, quelque part, que je suis en train de résumer. C'est deux personnes qui voient une personne mourante et qui s'en écartent pour leurs raisons personnelles. Ils ne veulent pas se souiller, ils ne veulent pas perdre leur temps. Ils se sentent trop importants. On peut mettre plein de choses derrière tout ça. Ils pensent à eux. Et puis une personne qui dépasse ça, qui dépasse la barrière de la race, qui dépasse la barrière du préjugé, qui dépasse la barrière du danger, qui dépasse la barrière de sentiment d'impureté et qui va aider l'autre, qui se donne à l'autre. Une vie centrée sur Dieu est nécessairement une vie centrée sur son prochain et ça, c'est la base de ce qu'on veut pour la source. C'est vraiment une invitation encore que j'aimerais vous donner. Un réveil peut-être pour ceux qui ont oublié ça, un encouragement pour ceux qui se donnent à ça. À qui ça coûte. Parce que là, on est en train de parler de la fondation de qui on est en tant que chrétien, en tant qu'église, avec un petit E, avec un grand E. Rappelez-vous de l'introduction. Rappelez-vous de l'introduction. On est associé à son plan. On est associé à son plan. Il a dit, j'ai besoin de toi. Je choisis d'avoir besoin de toi. Parce qu'il n'a pas besoin de moi, on est d'accord. Il suffit qu'il parle et paf, ça arrive. Mais j'ai choisi d'avoir besoin de toi. Et la Bible dit aussi qu'il produit le vouloir et le faire. C'est lui-même qui va agir en nous pour qu'on le fasse. Donc on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Mais il faut qu'on soit en action. Il faut qu'on soit en action. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on dise à Dieu, j'ai besoin de toi. Agis en moi. Fais quelque chose. Dirige-moi, montre-moi, donne-moi la force, donne-moi le courage, donne-moi la foi pour le faire. C'est dans une relation avec Dieu, on a besoin de lui, on est d'accord. Donc demandons-lui de l'aide. Mais ça demande de demander, ça demande d'être en action. Et pour pouvoir le faire, il faut aimer. Ça demande de voir en l'autre quelque chose. Mais du coup, j'aimerais amener une petite précision. Parce que j'ai parlé des frères, j'ai parlé de l'Église, de tout donner à l'autre qui est dans l'Église. Mais comme Jésus l'a dit, qui est mon prochain? En fait, c'est tout le monde. C'est tout le monde. L'œuvre pour tout le monde, en particulier pour ceux qui sont proches de moi. En particulier pour mes frères et sœurs en Christ. Mais c'est tout le monde. On est appelé à être le sel de la terre, pas le sel de l'Église. On est appelé à être la lumière du monde, pas juste pour l'Église. On a aimé appeler notre prochain comme, à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais c'est vrai que ça prend une part particulière pour l'Église. Ça prend une part particulière pour ma famille, même qui n'est pas dans l'Église. Mais mon cœur, il est ouvert à tout le monde, quelque part. Il devrait. Vous me suivez? Donc je vous ai parlé de l'Église, mais la Bible, elle l'étend à plus que l'Église. Donc, ça nous amène à la mission. On est en mission. On est envoyé. On est envoyé pour le prochain, pour vous, pour ceux qui sont en dehors de l'Église. C'est la mission qui nous est confiée. Mais du coup, on peut juste se dire ça et puis repartir et puis, oh, accablé. Comment on va faire? Il y a tellement de pauvres, il y a tellement de gens qui sont malades, il y a tellement de gens en difficulté. Même dans cette église, il y a plein de gens qui ont besoin. Mais qu'est-ce qu'ils avaient compris dans l'église primitive, ces premiers 3000 personnes? Qu'est-ce qu'elles avaient compris? Je pense qu'il y avait un changement dans leur système de valeurs. Il y avait un changement dans le système de valeurs Dieu-argent. Dieu versus argent. Ce n'était pas la même balance. Ce n'est pas la même considération de choses. Je pense à Dieu, je pense à mon argent. J'ai changé de valeur. Je ne vois plus les choses pareilles. Ce que Dieu me demande de faire, c'est plus important que la valeur que je donne à l'argent. Parce que je donne plus de valeur à Dieu. Ça demande un changement de valeur entre qui est la personne et ce qu'elle a fait. Est-ce que je vois la personne pour qui elle est ou pour ce qu'elle a fait? Est-ce que j'arrive à dépasser d'où elle vient aussi? Les préjugés peut-être racistes que je peux avoir. Est-ce que je peux dépasser les préjugés de « Ah oui, cette personne, elle a fait ça, je peux pas m'associer avec quelqu'un qui fait ça. » Ou est-ce que j'arrive à dépasser ça et à avoir la petite étincelle que Jésus voit en disant « Mais ouais, si cette personne, elle fait ça, c'est qu'elle a besoin d'aide. » Jésus, il a dit « Je suis pas venu pour les personnes bien portantes. » C'est un changement de valeur, moi et l'autre. Est-ce que je mets plus de valeur à moi, sur moi-même? Il ne faut pas sous-estimer, je ne dis pas ça, hein. Mais il ne faut pas se surestimer non plus. Et dire qu'il y a plus d'importance chez une personne ou une autre, c'est se poser la question, est-ce que je mets plus trop d'importance à moi-même? Donc, je pense que on a besoin pour être en mission avec le cœur léger, on va dire. Pour être en mission avec le cœur rempli de grâce, il faut qu'on se tourne vers la croix encore. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur le prisonnier. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'il faut qu'on voit dans l'autre ce que Dieu voit. Je me mélange les pinceaux. C'était ça? Il faut que je voie l'autre comme moi, en fait. En se disant, j'ai le même besoin que cette personne, moi. Moi, j'ai autant besoin d'aide, j'ai autant besoin de Jésus que l'autre. Il faut que je réussisse à avoir les yeux fixés sur la croix. Comme Paul dit dans Philippiens, je cours les yeux fixés sur l'objectif. Je cours les yeux fixés sur Dieu. Tout ce que je fais, c'est à cause de la croix. C'est pas parce que c'est bien de faire ceci, cela. C'est pas parce que simplement parce que Dieu me le demande. Non, c'est parce que j'aime. Et si ce matin vous aimez pas, et qu'honnêtement vous vous dites non, il y a des gens, j'arrive pas, ou bien juste de manière générale, j'arrive pas à aimer l'autre jusqu'au point de me donner, que ça me coûte, il faut pouvoir le dire à Dieu. Il y a que lui qui peut partager son cœur. Moi souvent ma prière c'est Dieu, j'ai envie d'avoir ton cœur. J'ai envie d'aimer comme tu aimes. J'ai envie de voir dans les autres, dans les situations, ce que toi tu vois. J'ai envie que tu mettes en moi ton cœur. Et ça, c'est pas moi qui vais le faire, c'est pas en prêchant que ça va se passer. C'est parce qu'on se met devant Dieu et qu'on prie et qu'on dit j'en ai besoin. Et on en aura toujours besoin de plus. Parce que l'amour de Dieu est infini. Et nous, on est finis. Et puis parce qu'on n'est pas constant. Mais Dieu est plein de miséricorde et plein de grâce. Et il nous dit, les mes bontés se renouvellent chaque matin. Il y a un prédicateur qui dit, c'est toujours le matin quelque part. Donc les bontés de Dieu se renouvellent chaque instant. Si j'en ai besoin, Dieu va pourvoir. Et on a besoin d'aimer comme Dieu aime. On a besoin d'aimer comme Jésus nous a aimés. Donc on va prendre à la fin un temps pour prier. Mais avant de prier et de du coup laisser le micro, je vais vous embêter encore une dernière fois sur une dernière petite chose en vous disant qu'on a envie d'être en mission concrètement. Pas juste à se dire des belles phrases, des beaux mots, dire « Ah oui, on aime les autres, et puis on va faire ceci, on va faire cela, et puis il faut que je rentre parce que mon poulet, il est chaud, et que j'ai faim, et puis qu'est-ce qu'on va faire demain ? Il faut que je fasse les courses, et on oublie. » Donc, on a envie d'être concrètement à l'œuvre, et je sais qu'il y en a d'entre vous qui le font, et beaucoup même. Mais une des raisons pour lesquelles on a parlé des groupes maisons en premier, c'est parce qu'on a envie de s'appuyer sur les groupes maisons. On a envie que nos groupes maisons soient en marche dans cette idée d'être en mission. Que les groupes maisons soient les cellules de vie où il y a cette dimension de la mission. Parce que quand on essaye de s'organiser tous ensemble, ça part dans tous les sens, c'est compliqué, il y a trop d'idées, il y a trop d'organisation et on ne s'en sort pas. J'aimerais bien qu'on puisse avoir un gros truc, qu'on puisse vraiment faire. Il y a des églises que le font et qui réussissent. Mais commençons juste par les gens qui sont à côté de nous. Les gens que je vois toutes les deux semaines, en qui j'ai vraiment confiance. Lui, il a eu une super bonne idée. Quelqu'un qui m'a parlé dans les groupes maisons de « Ah, et si on mettait 2 euros chacun toutes les deux semaines et qu'on allait acheter 30 euros de nourriture qu'on allait donner à un étudiant. On va aller parler à Claire-Élise et Quentin, peut-être qu'eux, ils connaissent quelqu'un. » Voilà. Ça n'a pas besoin d'être plein de feux d'artifice et des gros slogans et des « Ah, regardez !» Non. Aimez-vous les uns les autres. C'est simple. J'ai vu qu'il y avait des étudiants qui galéraient. Je ne trouve pas ça normal que des étudiants doivent rater des cours pour aller travailler et du coup rattraper les cours le samedi. C'est juste non. Et si vous avez ça sur le cœur, bah, faites quelque chose. Il y a plein de choses à faire. Donc prions que Dieu nous donne un cœur qui aime. Prions que Dieu nous donne un cœur qui aime quelque chose ou quelqu'un en particulier. Et rassemblons-nous et faisons quelque chose. Faisons quelque chose ensemble. Ça, c'est vraiment l'encouragement que je nous donne ce matin. Qu'on soit en mission. Qu'on soit en mission ensemble. Ouais. Si vous vous sentez accablé sous le poids de quelque chose, c'était pas mon but. C'était vraiment pas mon but. Parce que si vous faites les choses parce que vous vous sentez forcé de les faire, vous êtes une cymbale qui résonne et c'est pas ce que je veux pour vous. Donc on va prier. Et on va prier chacun pour soi. Je vous demande pas de vous lever parce qu'on va baisser la tête. Enfin, ceux qui veulent prier, oui, un peu de musique, ça peut aider à se concentrer. On va prier l'un avec soi-même, pas l'un avec l'autre aujourd'hui. Et dans l'intimité qu'on peut avoir dans nos petits cocons en baissant la tête, on va prier. Et je vais vous laisser un peu de temps et je vais prier à la fin. On va prier pour que Dieu nous donne son cœur, pour que Dieu nous dirige, pour que Dieu nous donne le courage pour y aller, être en mission.